Bonsoir, merci d'être venu suivre avec nous cette marche des idées telle que nous avons intitulé ce cycle autour de l'ouvrage dont je n'ai apporté que le premier tome, mais ceux qui viendront dans les séances suivantes verront le deuxième tome, La vie intellectuelle en France, dont j'ai le plaisir d'accueillir l'un des deux directeurs d'ouvrage, Christophe Charles. Laurent Jean-Pierre est dans la salle et sera ravi d'éventuellement répondre à vos questions à l'issue de la cérémonie. Et nous allons commencer par aborder peut-être un sujet inaugural, aussi bien historiquement que pour même la définition même de la vie intellectuelle, c'est-à-dire la question de la liberté intellectuelle. Alors, d'abord un mot sur cet ouvrage qui nous sert de base. La vie intellectuelle en France, on peut d'abord dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas une histoire des idées. Il y a beaucoup d'histoires des idées. Ça n'est pas non plus une histoire des intellectuels, même si Christophe Charles, ici présent, a produit lui-même une histoire des intellectuels. Ça n'est pas tout cela, mais c'est autre chose qui englobe tout cela, qui essaye d'interroger tout ce qui peut fabriquer une vie intellectuelle, c'est-à-dire bien sûr du politique, de l'espace public, mais aussi la question de l'éducation, les conditions économiques, les conditions même techniques. Une machine peut être aussi importante pour la diffusion de la presse, par exemple, qu'une idée brillante. C'est une vie intellectuelle qui se déshéroïse, qui essaye de sortir de la figure qui est habituellement celle que l'on promeut, dont on déplore en général le déclin aujourd'hui. Et du coup, en entrant dans cette vie intellectuelle, on entre aussi dans tout ce qui permet la vitalité de la vie intellectuelle. Et finalement, c'est un peu la question constante qui anime cette vie intellectuelle, c'est savoir qu'est-ce qui fait cette vitalité la liberté pour y arriver est une de ces conditions de la vie intellectuelle. Alors, avant d'arriver spécifiquement à ce sujet, j'aimerais demander à Christophe Charles, nous allons arriver à ce sujet avec Gisèle Sapiro, que j'ai oublié de présenter, qui est sociologue, directrice de recherche à l'EHESS et au CNRS, et qui a signé plusieurs articles dans cet ouvrage, et notamment cet article autour du combat pour la vie intellectuelle. Mais pour commencer, Christophe Charles, vous avez écrit ce livre très important qui s'appelle « Discordance des temps », qui était une exploration de ce qu'était la modernité. Est-ce que vous diriez que la notion même de vie intellectuelle est une notion moderne, et en quoi ?
Ce n'est pas une notion moderne, puisqu'il y en a quand même eu d'autres époques. Ce qui est spécifique dans notre époque, c'est que c'est un moment justement de grand débat sur ce que doit être la vie intellectuelle, sur ses limites, sur sa possibilité, sur sa liberté, ce qui évidemment n'était pas le cas dans des sociétés anciennes où il y avait une orthodoxie de type religieux ou de type politique, qu'on pense aux cités antiques ou qu'on pense à l'ancien régime français. Donc ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'à partir de la Révolution française, c'est pour ça que nous partons dès le lendemain de la Révolution française, tout a été remis en cause, c'est-à-dire aussi bien le cadre politique, évidemment, avec le renversement de la royauté et puis le changement de société, les conditions même des relations entre l'État et la religion, avec la constitution civile du clergé, puis la tentative de déchristianisation. Donc tout ce qui était les piliers de la vie intellectuelle ancienne s'effondre, ou en tout cas sont remis en cause. On va essayer de les reconstruire, hein, tant bien que mal, dans certains régimes. Je pense au régime de Napoléon, je pense au régime de la Restauration. Mais à chaque fois, ces piliers sont de nouveau ébranlés, etc. Donc on est quand même dans un processus de remise en question de tout ce qui était les cadres officiels, traditionnels. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette période qui s'étend jusqu'à nos jours, c'est qu'à chaque génération, on revient sur ces mêmes questions. Quelles doivent être, justement, les conditions de possibilité de cette vie intellectuelle? Est-ce qu'elle doit être organisée par l'État ou, au contraire, totalement libre? Si elle est totalement libre, est-ce qu'il ne faut quand même pas mettre un certain nombre de freins sous forme de loi, sous forme de règlement? Qu'ils doivent être les responsables de cette vie intellectuelle? Est-ce que ça doit être les intellectuels eux-mêmes ou est-ce que ça doit être des institutions, des groupes, des corps? Enfin, donc, c'est ça qui est passionnant dans cette période, c'est qu'on est dans un moment de redéfinition, de remise en question, et ça ne se fait jamais définitivement. C'est-à-dire que on pourrait croire qu'avec Napoléon, ça y est, on a reconstruit tout un cadre avec l'Institut de France, les académies, les facultés, le Concordat, donc ce qui refait les piliers de la vie intellectuelle, et puis patatras, ça va recommencer. À chaque nouveau régime, on va remettre en question tout cela. Donc, on est dans une dynamique comme ça qui n'est jamais terminée. Alors, vous parliez de discordance des temps. Oui, je crois que c'est ça. C'est qu'on a à la fois des générations qui ont la nostalgie de ce passé traditionnel, hein, de ces institutions qui étaient solides, qui paraissaient séculaires, qui paraissaient fondées sur des fondamentaux remontant à Dieu ou remontant au roi. Eh bien, cette possibilité de retour au passé s'avère une illusion. Et donc, à chaque génération, on revient sur ce travail de reconstitution, de reconstruction. Et ça, c'est quand même très spécifique, évidemment, de la France, puisqu'il y a eu, bien sûr, d'autres révolutions dans d'autres pays, mais pas de cette ampleur, et en tout cas, qui n'ont pas remis en cause tous ces aspects de la vie intellectuelle, mais pas seulement de la vie intellectuelle, de la vie sociale, de la vie politique, etc. Donc, tout cela, évidemment, suscite des débats. Donc, évidemment, l'étude de ces idées, de ces débats autour de ces questions, c'est aussi dans le livre. Qui sont les acteurs de ces débats? Quelles sont les nouvelles conceptions qu'on va défendre? Comment on va reconstituer une histoire pour penser l'avenir? Donc, toutes les pensées utopiques, toutes les pensées prophétiques qui marquent en particulier la première partie du XIXe siècle, tout ça, c'est des efforts pour justement reconstruire sur de bases nouvelles et essayer de faire face à cette histoire un petit peu incontrôlée. Donc c'est en cela qu'effectivement il y a un lien essentiel entre à la fois la périodisation qu'on a suivie, le moment critique que nous traversons, et c'est un moment critique qui se reproduit à plusieurs reprises, et en même temps, bien sûr, tout ça suscite une effervescence, des débats, des questionnements, des nouvelles théories, des remises en question de ces théories.
Est-ce que ce qui est au cœur de cette période-là dont nous allons plus spécifiquement parler aujourd'hui, qui commence avec la mort de Napoléon en 1815, c'est justement, vous y faisiez largement allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le difficile bilan des Lumières qui a pris ce temps, tout ce temps, et qui n'a...
Oui, alors pas seulement des Lumières, parce qu'il y a,
aussi la Révolution.
Il y a à la fois effectivement... l'hypothèse selon laquelle, c'est défendu par un des camps, que les Lumières ont produit la Révolution, c'est la filiation logique qui est discutable et discutée d'ailleurs pour certains. Et puis inversement, il y a ceux qui sont contre les Lumières et qui veulent justement éradiquer ce qui reste des Lumières, ou en tout cas ce qu'ont légué les Lumières, pour reconstruire un ordre qui soit solide. Donc on a un affrontement lumière-anti-lumière qui se perpétue évidemment sous des étiquettes différentes. Ça peut être la pensée de Joseph de Maistre, ça peut être la pensée de Chateaubriand, etc., qui essaye de reconstruire un ordre symbolique. Et puis inversement, il y a ceux qui se pensent les héritiers à la fois des Lumières et de la Révolution, mais qui en même temps ne sont pas d'accord sur le sens de cette Révolution. Pour certains, la Révolution, comme dirait l'autre, s'arrête le 14 juillet 1789. Pour d'autres, elle continue jusqu'au 10 août 1792. Pour d'autres, elle continue après la mort de Robespierre, etc. Donc, selon l'interprétation qu'on va donner de la Révolution, on va construire un ordre symbolique, ou on va vouloir reconstruire un ordre symbolique qui ne sera pas le même et qui impliquera évidemment des institutions intellectuelles, une liberté plus ou moins large des débats et de relations avec la politique, etc. Donc, tout ça, on voit bien que c'est des débats d'interprétation, mais qui ont des conséquences pratiques extrêmement importantes sur tous les aspects de la vie intellectuelle.
Je crois qu'on a compris à vous écouter pourquoi cette première période, vous l'avez intitulée le temps des prophètes,
des prophéties.
Oui, mais il y a, pour qu'il y ait des prophéties, il faut qu'il y ait des prophètes.
Oui, mais parce qu'il y a des prophètes sans prophétie et des prophéties sans prophètes.
Allons bon. Ça va nous compliquer.
Non, parce qu'il faut, oui. faut aussi... c'est aussi un cimetière d'idées. C'est à la fois un cimetière d'idées et en même temps un berceau d'idées multiples dont certaines ne vont germer que bien plus tard. Puisqu'on a à la fois la naissance, bien sûr, du socialisme, on a la naissance de pensée d'un nouveau catholicisme qui serait à l'écoute de son temps, on a la naissance, évidemment, des sciences sociales, ou en tout cas la préhistoire des sciences sociales. Donc c'est vraiment une période de bouillonnement. Et puis le tout dans, évidemment, l'atmosphère du romantisme, c'est-à-dire une idée selon laquelle l'idée s'incarne dans l'histoire et peut changer le monde. Enfin, c'est évidemment tout un courant de pensée, de romantisme social, de romantisme révolutionnaire, qui, évidemment, va durer bien au-delà même de 1850, puisqu'on a des résurgences à travers des formes de marxisme ou à travers des formes de messianisme religieux à la fin du 19e siècle. Et puis ça va être repris, évidemment, avec les nouvelles formes de marxisme du XXe siècle. Donc on voit bien que ce sont des pierres qui sont jetées un petit peu comme ça et qui vont produire des effets à très long terme.
Gisèle Sapiro, vous l'entendez comment, vous, le temps des prophéties?
Je pense qu'il y a quand même des prophètes, parce qu'il y a des prophéties.
Oui, il y a des prophètes, mais souvent on les ridicule, souvent on s'en moque, parce que c'est vrai que parfois il y a des personnages un peu curieux ou bizarres, hein, et qui du coup on rabat leurs prophéties sur leur personne et on perd finalement le sens de ce qu'ils veulent dire. Je pense à gens comme Fourier, dont on s'est moqué parce qu'il avait parfois des lubies un peu étranges, et ce qui dévalorisait ce qu'il avait d'intéressant à dire, par ailleurs. C'est pour ça qu'on insiste sur les prophéties.
Je pense que ce qui est intéressant dans cette reconfiguration, c'est l'émergence de cette figure de l'écrivain comme prophète, qui est quelque chose de nouveau, parce que c'est au moment même de la sécularisation, des débuts de laïcisation, que les écrivains vont incarner cette figure prophétique telle que définie par Max Weber, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas mandaté par une institution, et aussi le moment où on crée l'université républicaine, n'est pas mandaté par une institution pour parler en son nom, qui parle en son nom propre, au nom de son charisme personnel, donc qui arrive à constituer des cercles, et là on a autour de Fourier, enfin de tous ces utopistes, des cercles, mais aussi autour d'écrivains, comme on peut penser à Hugo, et ces cercles sont aussi constitués par la presse, par l'imprimerie qui se développe, donc par cette communauté imaginaire qui se constitue autour d'auteurs. Et donc la caractéristique du prophète, selon Weber, c'est aussi la gratuité et la prédication émotionnelle, donc qui va s'opposer à des discours plus organisés, rationnels, on peut dire. Et donc là, en ce sens-là, on peut voir que le romantisme est une forme d'incarnation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rationalité dans le discours, mais voilà, donc c'est ce message, en fait, la forme que prend ce message, cette prédication émotionnelle, qui caractérise, je pense, cette émergence de l'écrivain romantique comme prophète.
Oui, et qui correspond justement à un moment où les institutions traditionnelles, en particulier les religions établies, peinent à donner des réponses à cette discordance des temps, à proposer une nouvelle lecture du monde et une nouvelle lecture de l'histoire. Et du coup, il y a une demande dans la population, très variable, mais enfin, il y a quand même une demande de sens. Et ça donne effectivement une fonction nouvelle à l'écrivain. Alors il y avait eu une préfiguration de ça avec quelqu'un comme Rousseau, mais en même temps lui-même il était un peu prophète malgré lui, enfin, en tout cas il refusait de jouer le rôle d'un véritable leader politique, alors que là dans le romantisme, la plupart des grands romantiques, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Hugo, que ce soit Lamartine, ou que ce soit même Balzac, sont tout à fait prêts à accepter cette espèce de mission, et ils sont même des sortes de défis, puisqu'ils ont une vision, de proposer une vision du monde complètement universelle, en tout cas, une interprétation du monde. Alors ça change évidemment au cours du temps, mais enfin, en tout cas, ça montre bien effectivement un nouveau rôle pour ce type d'écrivain qui n'a pas tout à fait d'équivalent, même chez les philosophes du XVIIIe siècle.
Et puis, si on pense aux écrivains libéraux, en fait, ils attaquent de front, en fait, les prêtres, hein, qui sont représentants de l'Église. Il y a des luttes très violentes autour des questions religieuses pendant cette période. Il y a les ultras qui défendent l'Église ont bien compris que c'est là que se résidaient l'hérésie, et la propagande antireligieuse est poursuivie, condamnée, je pense qu'on va y revenir, mais en tout cas c'est vraiment la bête à abattre, enfin, et donc ils sont poursuivis, on brûle des livres, hein, à l'époque il y a des autodafés, des livres anti-religieux, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir amené la révolution et aussi d'être en train de séculariser, en fait, ce qui est assez juste,
de fait. Alors justement, pour donner une idée du ton, ne serait-ce que du ton des débats, je vais vous lire l'intervention de Victor Hugo, le prophète majeur des temps modernes, comme vous dites, Christophe Charles, qui intervient à l'Assemblée le 15 janvier 1850 contre la loi Falloux qui sera finalement votée. Cette loi Falloux concerne l'autorisation de l'enseignement confessionnel. Et en plus, elle soumet, si je parle sous votre contrôle, elle soumet les établissements publics et les instituteurs au contrôle des autorités de l'État, mais aussi des autorités morales, c'est-à-dire religieuses. Et voilà comment Victor Hugo s'insurge contre cette loi. Il faut préciser que nous sommes en 1850, que Victor Hugo, à ce moment-là, fait encore partie du parti de l'ordre, qui n'a pas particulièrement, c'est un euphémisme, soutenu la révolution de 48, mais néanmoins, il s'insurge de cette manière-là contre la loi Falloux. Et vous voulez être les maîtres de l'enseignement, et il n'y a pas un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, pas un penseur que vous acceptiez. Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez. Si le cerveau de l'humanité était là devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures. Oui, oui, dit l'Assemblée. Convenez-en, mouvement prolongé. Enfin, il y a un livre qui semble d'un bout à l'autre une émanation supérieure, un livre qui est pour l'univers ce que le Coran est pour l'islamisme, ce que les Védas sont pour l'Inde, un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la vénération des peuples appelle le livre, la Bible. Eh bien, votre censure a monté jusque-là. Chose inouïe, les papes ont proscrit la Bible. Quel étonnement pour les esprits sages, quelle épouvante pour les cœurs simples de voir l'index de Rome posé sur le livre de Dieu. Vive adhésion à gauche. Et vous réclamez la liberté d'enseigner. Tenez, soyons sincères, entendons-nous sur la liberté que vous réclamez. C'est la liberté de ne pas enseigner. Applaudissements à gauche, vive réclamation à droite. Ne vous sentez pas visé. Quoi, je vous suis suspect, vous le dites ? Crise à droite. Oui, oui, oui. Tumulte inexprimable. Une partie de la droite se lève et interpelle l'orateur impassible à la tribune. Eh bien, sur ce point, il faut s'expliquer. Je vous suis suspect. Mais vous étais-je suspect quand j'accomplissais mon mandat de représentant de Paris en prévenant l'effusion du sang dans les barricades de juin ? Bravo à gauche. Nouveau cri à droite. Eh bien, vous ne voulez même pas entendre une voix qui défend résolument la liberté. Si je vous suis suspect, vous me l'êtes aussi. Entre nous, le pays jugera. Je le déclare dans ma conviction, ce qu'il faut à la France, c'est l'ordre, mais l'ordre vivant qui est le progrès. C'est l'ordre tel qu'il résulte de la croissance normale, paisible, naturelle du peuple. C'est l'œuvre se faisant à la fois dans les faits et dans les idées par le plein rayonnement de l'intelligence nationale. C'est tout le contraire de votre loi. Vive adhésion à gauche. Je suis de ceux qui veulent pour ce noble pays la liberté et non la compression, la croissance continue et non l'amoindrissement, la puissance et non la servitude, la grandeur et non le néant. Bravo à gauche. Quoi ? Voilà les lois que vous nous apportez. Quoi ? Vous, gouvernants, vous, législateurs, vous voulez vous arrêter ? Vous voulez arrêter la France ? Vous voulez pétrifier la pensée humaine, étouffer le flambeau divin, matérialiser l'esprit ? Vous êtes donc dans votre siècle comme des étrangers. quoi, c'est dans son siècle, dans ce siècle, ce grand siècle des nouveautés, des événements, des découvertes, des conquêtes, que vous rêvez l'immobilité. Mais vous ne voyez donc pas que tout va, vient, se meut, s'accroît, se transforme et se renouvelle autour de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous. Vous voulez tout arrêter ? Eh bien, je vous le répète avec une profonde douleur, moi qui hais les catastrophes et les écroulements, je vous avertis la mort dans l'âme, on rit à droite, vous ne voulez pas du progrès, vous aurez les révolutions. Profonde agitation. Christophe Charles, je crois que dans ce texte, on entend quelque chose du bouillonnement dont vous parliez à l'instant.
Oui, il faut rappeler que c'est une période très tendue. Hein. Nous sommes après la révolution de 48, mais en même temps, on est dans la période de reflux, puisque aux élections de 1849, une majorité conservatrice a conquis la majorité à l'Assemblée législative, et elle est de plus en plus inquiète parce qu'elle constate qu'il y a aussi, au sein de l'Assemblée, c'est ceux qui approuvent évidemment Victor Hugo, une très forte minorité de gauche, voire d'extrême gauche, qui voudrait qu'on poursuive cette révolution de 48, alors que justement les élections, dans la majorité du pays, avaient plutôt montré un certain conservatisme. Donc il y a une tension croissante entre les deux camps, et Victor Hugo lui-même est en train de changer progressivement. Il était plutôt conservateur au démarrage, et puis voyant l'évolution de plus en plus conservatrice de cette majorité, il s'aperçoit qu'on va enterrer la révolution. Donc il voit dans cette loi Fallou un des premiers actes, enfin il y en avait eu un autre, c'était la fameuse expédition de Rome, hein, quand l'Assemblée législative a décidé d'envoyer un corps expéditionnaire pour rétablir le pape, c'est pour ça qu'il y a des allusions à la papauté dans ce texte, rétablir le pape qui avait été renversé par une révolution à Rome. Donc il voit bien qu'il y a un courant conservateur extrêmement fort et que cette loi est un des éléments de retour en arrière, de rétablissement progressif de ce qui avait été renversé en 1848. Alors ça peut nous paraître étonnant que Victor Hugo ait eu cette évolution un peu à contre-courant finalement du pays, puisque lui-même au départ il était plutôt réservé hein, face à la République, il avait été très proche du régime de Louis-Philippe, donc on s'étonne que quelqu'un comme ça ensuite tienne des discours aussi violents contre l'Église, mais je crois qu'il y a quand même un fond profond dans sa conviction que donner l'enseignement à l'Église, remettre l'enseignement sous la coupe de l'Église, comme c'était le cas avant la Révolution française, c'est vraiment tourner le dos au temps présent. Enfin, c'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Vous voulez revenir à l'immobilisme, vous voulez revenir à la tradition, alors qu'il y a un mouvement, enfin, c'est sa conviction profonde, il y a un mouvement dans un sens, on ne peut pas arrêter l'histoire. Donc on voit bien que là, il se pose un peu en interprète du sens de l'histoire, et il a décidé que c'était ça le sens de l'histoire, et qu'aucune loi ne peut l'empêcher. Donc il est un peu là le prophète de cette idée qu'il y a vraiment le progrès qui va dans un sens, et que ces mouvements conservateurs, ces mouvements réactionnaires, de toute façon, un jour ou l'autre, seront balayés. Mais en même temps, il dit ça à un moment où ce n'est pas du tout évident, puisque, comme je l'ai dit, les élections avaient plutôt allé dans l'autre sens, qu'en Europe même, les autres révolutions de 48, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hongrie, ont été balayées en 1849-50. Donc la France est le dernier pays, c'était à la fois un des premiers pays à faire la révolution et un des derniers pays à continuer quand même d'avoir une orientation clairement républicaine. Donc il se sent un petit peu acculé, c'est pour ça qu'il y a une violence dans ce ton et une violence dans les réactions, parce qu'on est vraiment dans un moment de tension extrême. Et alors, comme vous le savez, ça, il va aller jusqu'au bout de cet engagement, puisque en 1851, donc l'année suivante, au moment où Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'État du 2 décembre, il sera un des derniers des républicains, un des derniers des députés républicains à résister à ce nouvel ordre. Il sera arrêté, il sera obligé à l'exil, etc. Et il va rester pendant plus de 20 ans comme un prophète, là, tout à fait sur son rocher, en train de dénoncer la dictature de Napoléon III et en train d'annoncer qu'un jour, le progrès et la République vont reprendre. Donc il y a vraiment là, on n'est pas simplement dans des analogies ou dans des métaphores, on a vraiment quelqu'un qui se sent investi d'une mission et qui veut vraiment faire passer ce message. Et ce qui est frappant, c'est que, d'abord, il mobilise, on le voit dans l'Assemblée, tout un courant, à travers ses réactions contrastées face à son discours, mais ensuite même, quand il sera dans son opposition systématique au régime de Napoléon III, il continuera d'avoir une aura extraordinaire, puisque, on le sait, ses poésies seront très très populaires dans la population. Même ses livres, qui sont plus ou moins interdits, arrivent à se diffuser en France. Donc on voit bien qu'il y a une puissance, enfin c'est sa conviction, il y a une puissance de l'idée en elle-même, mais c'est relativement bien vérifié par cette aura qu'aura ce poète, et ensuite sa carrière politique extraordinaire, puisqu'il sera ensuite réélu après 1870 comme député, puis comme sénateur inamovible. Donc on voit bien que là, on a une sorte d'adéquation finalement entre cette posture qui peut paraître un peu grandiloquente, un peu extravagante, enfin, avec nos yeux un peu médiocres d'aujourd'hui, mais qui s'est réalisée véritablement dans les faits à travers ce parcours extraordinaire de ce personnage qui finit dans la cour de la Sorbonne comme un des deux pères fondateurs de la science, avec à sa gauche Louis Pasteur. Donc là, on a un peu un résumé du siècle.
Et au moment où il parle comme ça, il n'a pas encore écrit ses grands romans sociaux. Enfin,
il a commencé à rédiger Le brouillon des Misérables sous le titre La misère, mais comme il l'a mis dans une page de son manuscrit, arrêté pour cause de révolution, et il le reprendra 15 ans plus tard, et là ça sera évidemment un best-seller terrible à l'échelle européenne, mais en même temps un peu nostalgique, parce que ce qu'il décrit dans ce Misérable, vous savez, c'est la société qui a disparu depuis longtemps, en fait, et qui remet sous les yeux des gens 30 ans après, donc ça a aussi un côté un peu d'adieu au romantisme social, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Misérable reste très populaire grâce aux comédies musicales, mais je ne sais pas si le message politique et social des Misérables tels qu'ils sont adaptés dans les comédies américaines sur Broadway, c'est tout à fait ça qui est perçu par le public, en tout cas de Broadway.
Alors Gisèle Sapiro, venons-en à ce combat pour la liberté intellectuelle, pour que précisons les termes déjà, la liberté intellectuelle n'est pas exactement ou n'est pas seulement la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté d'opinion, la liberté de recherche, la liberté religieuse, la liberté de réunion. Par quoi commence-t-elle tout de même ?
En fait, la liberté intellectuelle n'est pas définie en tant que telle et n'est pas fort heureusement restreinte aux intellectuels, je dirais. Ça, c'est un premier point, même si souvent ils revendiquent un traitement d'exception, on voit ça dans l'histoire. Notamment, par exemple, les naturalistes revendiquaient d'avoir un traitement comme celui des médecins. Donc les médecins, ils avaient une dérogation pour l'élite de médecine sous la Troisième République, pour la vulgarité, enfin, pour les illustrations, évidemment, qui pourraient relever de la pornographie, mais qui, comme elles étaient à usage savant, étaient autorisées. Donc il y avait une exception. Et d'ailleurs, c'est intéressant au procès autour de la publication de l'œuvre de Sade par Pauvert dans les années 50. Ça reviendra dans la discussion, cette question de l'exception médicale, parce qu'en disant que Sade examine aussi la psychologie humaine, etc. Alors, ce qu'on a au début du 19e siècle, c'est la notion de liberté de conscience qui échappe à la loi. Parce que en fait, ce qui est poursuivi, c'est ce qui est exprimé, donc communiqué à un tiers. Hein, finalement, la première loi sur la liberté d'expression reconnaît la liberté de conscience. Évidemment, ce que l'Église, par exemple, ne reconnaît pas, puisqu'il y a tout ce dispositif de la confession qui a été mis en place depuis de longue date, justement, pour contrôler les consciences. Et le contrôle des consciences va être la préoccupation de l'Église pendant tout le XIXe siècle, au moment où, justement, ce contrôle lui échappe progressivement, avec notamment les questions d'enseignement, etc. Il y a la liberté d'expression qui est décrétée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'application a été d'assez courte durée et qui va être réaffirmée par la charte de 1815, mise en œuvre par les lois de Serres de 1819. Mais évidemment, la législation consiste à restreindre cette liberté, c'est-à-dire à dire qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de l'exprimable et du discutable. Et puis, il y a la liberté de discussion philosophique qui est décrétée aussi par la charte. La liberté de discussion philosophique, c'était la liberté de discussion religieuse, en fait. La coexistence de systèmes religieux et la possibilité de débattre entre eux, parce qu'il ne suffit pas de décréter la liberté d'expression, parce qu'après, on va avoir des conflits, comme on en a eu en France, les conflits de religion avaient été extrêmement violents. Donc c'est évidemment contre l'intolérance. Ça renvoie à tous les débats sur la tolérance au XVIIIe. Alors, en fait, c'est ça qu'on a dans le dispositif de l'époque. Plus tard, les notions de liberté de recherche, ça apparaîtra bien plus tard. Je ne sais même pas si on peut dater exactement. Alors, la liberté de création, elle est revendiquée comme un... Il y a une ligue pour la défense de l'art qui se crée au début du XXe siècle, qui demande qu'il y ait un traitement justement d'exception, enfin spécifique, pour les œuvres d'art en tant que telles, en les distinguant de la pornographie. Ça n'a jamais été codifié dans la loi, parce que justement, on veut pas, les législateurs n'ont jamais voulu distinguer les formes d'expression. Elle a été codifiée récemment, l'an dernier, dans la loi sur la liberté de création, enfin, la loi sur la création. Elle est codifiée, mais elle n'est pas dans le dispositif de la loi 1881 qui s'applique encore aujourd'hui. Donc cette distinction création-expression, elle est fait lors de débats. L'Observatoire pour la liberté de création de la Ligue des droits de l'homme qui défend ce principe de la liberté de création aujourd'hui, c'est en débat. Il y a y compris des gens qui sont pour la liberté d'expression mais qui récusent cette distinction entre création et expression, donc c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui.
Ça, on va y venir certainement sur l'actualité de tous ces débats, parce que vous ne nous parlez pas chinois quand vous nous racontez tout ça. On retrouve beaucoup de choses. Mais avec quel motif essentiel se défend la liberté d'expression à ce moment-là, c'est-à-dire au début du 19e,
La liberté d'expression est bornée par les lois de Serres autour de choses qui vont rester dans la loi de 1880 mais sont redéfinies. Donc il y a une manière de limiter cette liberté sur le plan politique, qui ne se dit pas comme telle, mais c'est la protection du régime monarchique. C'est quelque chose qui va disparaître dans la loi de 1881 après débat, long débat à l'Assemblée sur est-ce que le régime républicain doit se défendre en tant que tel, se protéger, et finalement il va décider que non, la liberté d'expression, enfin que le régime peut triompher en affirmant la liberté de discussion politique complète, ce qui fait que du coup on va recourir à d'autres, pour poursuivre les ennemis du régime, on va recourir à d'autres articles de la loi, comme l'offense aux mœurs par exemple, qui va être très mobilisé pour attaquer les opposants politiques. Alors, il y a un concept qui est forgé au moment de la Restauration, qui est très intéressant, qui est celui de morale publique.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est quelque chose d'assez intéressant, parce que il y a tout un débat pour le définir et aussi savoir s'il inclut la religion ou pas. Finalement, les ultras vont vouloir rajouter morale publique et religieuse, mais finalement, scié la branche sur laquelle ils étaient assis, parce que ce qui va permettre par la loi 1880 de privatiser la religion en l'excluant des domaines protégés par l'État, en fait. Et donc cette morale publique, finalement, elle englobe tout ce qui est l'ordre social, c'est-à-dire le respect des hiérarchies sociales, de l'ordre social des parents. Par exemple, ça va être utilisé pour défendre la propriété sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire les romans qui peuvent remettre en cause le principe de la propriété sont condamnés au nom de la morale publique. Donc ça, c'est une notion qui est remise en cause par la grande loi républicaine de 1881, qui privatise aussi la religion, mais qui maintient par exemple l'offense aux mœurs et qui durcit les pénalités sur l'offense aux mœurs. Alors les arguments en défense, en fait, ils sont de plusieurs ordres. On peut tout d'abord évoquer la notion de vérité, qui est très souvent utilisée dès la période de la Restauration. Le droit de critiquer les institutions en régime parlementaire, Parce que le principe, c'est de dire, bon, si les gens votent, il faut qu'ils soient éclairés. Hein. Et donc, ce droit de critiquer les institutions fait l'objet, est au cœur des débats. Par exemple, le droit de critiquer. Alors, oui, j'ai oublié de dire, on n'a pas le droit de. Il y a une liberté de discussion religieuse, mais l'athéisme est un crime.
Voilà, j'allais y venir.
L'athéisme est un crime sous la Restauration. Donc, on n'a pas le droit de remettre en cause le principe de l'immortalité de l'âme. Voilà. Donc les débats. Donc on n'a pas le droit d'attaquer la religion, donc qu'est-ce que font les penseurs libéraux? C'est qu'ils attaquent les prêtres. Donc à travers les prêtres, évidemment, il y a les débats, par exemple, autour le procès de Béranger, le chansonnier, où ça c'est au cœur du débat. De fait, il s'en prend aux prêtres, mais tout le monde entend derrière une critique de l'institution religieuse, sinon de la religion en tant que telle. Donc il y a cette dimension-là. Il y a ce qui émerge à la fin des années, dans les années 40, qui est le principe de l'art pour l'art, c'est-à-dire la défense de la valeur de l'art indépendante de la morale. Et ça va être aussi un des arguments en défense, qui est par exemple mobilisé par le défunt, l'avocat de Flaubert, de Baudelaire, pas Flaubert, de Baudelaire dans son procès, parce que c'est Baudelaire qui lui a préparé le dossier, d'ailleurs qui va conduire évidemment à être condamné, parce que c'était impossible de faire passer cet argument dans le régime, sous le régime du Second Empire.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Baudelaire, Flaubert et Eugène Sue ont été
absolument
été attaqués en 1857.
Voilà, la même année. Donc c'est ça, je dirais, les principaux motifs de défense, c'est le principe de la vérité, y compris dans les fictions, le principe de la critique des institutions et la défense de l'art pour l'art, en fait. Et d'ailleurs, la question de la vérité prend une forme très spécifique sous la Troisième République, qui est la défense de... C'est les naturalistes qui sont poursuivis se réclament de la science. Donc c'est leur modèle pour étayer leurs arguments et leurs... par exemple, la description de l'onanisme dans tel roman. Enfin, voilà. Donc ils se réclament de la science pour dire qu'en fait, eux, ils décrivent la réalité, quoi.
Alors, si on prend plusieurs cas de relativement connus de censure, vous avez fait allusion à Béranger, on a fait aussi allusion au procès contre Flaubert, Baudelaire et Sue en 57. Dans votre ouvrage sur la responsabilité de l'écrivain, vous parlez aussi d'un cas de Lucien Descaves qui a été attaqué pour antimilitarisme, qui avait écrit un roman qui s'appelle Les Sous-Offres. Et puis on peut peut-être même aller un peu plus loin en pensant à l'endroit où nous sommes, en 1966, pour le coup, là, faisons des sauts, les paravents de Genet, mis en scène par Roger Blin, qui est le parrain de cette salle, ont été aussi interdits. Comment est-ce que, d'une façon comparative, on peut voir là les motifs de la censure, les permanences, qui attaque quoi?
Ce qui est frappant, c'est les derniers exemples que vous citez, c'est finalement, bon, la religion n'est plus en cause, c'est l'armée. Ouais. Et l'armée en tant que
pour les paravents et
en tant qu'incarnation de la nation et donc incarnation de l'État, d'une certaine façon, en tant que force qui défend l'État. Donc on voit bien que on est sorti du débat de la Restauration pour entrer dans un nouveau débat, c'est-à-dire est-ce que la nation est une sorte de nouvelle institution sacrée qu'on ne peut pas attaquer à travers son principal élément de force qui est l'armée, au nom justement d'une sorte d'essence supérieure qui, analogue à ce que pourrait être justement une croyance théologique. Donc on voit bien que là on est entré dans une nouvelle époque avec cette sacralisation de la nation, ce culte de la patrie, et qui évidemment résonne très fortement après 1870, puisque certains pensent que si l'armée française s'est fait battre en 1870, c'est parce que justement il n'y avait pas de sentiment patriotique, il n'y avait pas de soutien de la population pour remonter la pente au moment des premières défaites. Donc un roman qui contribue à donner une image négative de l'armée est une sorte d'attaque par derrière contre contre la force même de la nation. Alors, pour l'affaire des paravents, il s'agit évidemment d'autre chose, c'est la critique du corps des parachutistes qui auraient et ont, c'est bien connu maintenant, pratiqué évidemment la torture face aux insurrections coloniales. Et là, disons, l'interdiction ou l'arrêt de la pièce est lié à une protestation du corps même qui était attaqué, qui a fait une perturbation des premières représentations et qui évidemment a en quelque sorte poussé la direction du théâtre à retirer la pièce pour ne pas continuer ce genre de manifestation. Mais ce n'est pas une censure a priori, c'est plutôt une pression, comme il y a eu quand il y a eu un certain nombre de films qui attaquaient la vie du Christ ou qui donnaient une image,
oui, dans une époque plus récente,
image un peu péjorative de certains épisodes des Écritures. Il y a eu des groupes de pression catholiques ou intégristes qui ont aussi perturbé ces représentations pour justement empêcher que ça continue. Donc là, c'est plutôt la société elle-même, en tout cas des fragments de cette société qui ne tolère pas ces œuvres, qui s'insurge et qui crée une sorte de censure privée qui finalement s'abat sur les œuvres.
Mais Malraux refuse de couper les subventions, hein. Il défend la liberté d'expression, il dit malgré la pièce, parce qu'il ne souscrit évidemment pas à la pièce, mais il refuse de couper la subvention, ce qui est réclamé par certains parlementaires. Je voudrais revenir sur l'affaire des caves et puis plus largement sur la question aussi du genre dans ces procès, parce que la question de la forme matérielle et de la forme tout court que prennent donc on ne fait pas de distinction entre création et expression, mais on fait des distinctions selon le genre. Donc par exemple dans le procès de Béranger, le fait que ce soit des chansons, en fait Béranger chantait ses chansons dans des caveaux, mais c'est à partir du moment où il les imprime que c'est considéré comme dangereux et qu'il est poursuivi. Dans le procès, la question du genre et les trois procès, parce qu'il y en a eu trois, est mise en cause, est débattue, parce que l'avocat essaie de défendre les chansons comme un genre léger, donc qui peut s'autoriser quelques licences. D'ailleurs, Louis XVIII aimait les chansons, c'était un genre d'ancien régime. En revanche, procureur du roi attaque ces chansons comme des... Il essaie de les qualifier comme d'abord de la poésie, donc des odes, et le troisième... dans le troisième procès, l'attaque les qualifie de libelles rimées. Donc les transformer en pamphlets ou en libelles, c'était une manière d'aggraver son cas, puisque la forme du pamphlet était considérée comme ayant forcément une visée séditieuse. Et ça revient dans un certain nombre de procès, d'ailleurs c'est toujours d'actualité aussi cette question, mais ça revient par exemple au procès des caves, le procureur essaye de qualifier le roman de pamphlet, enfin de libelle, tandis que, c'est intéressant, l'avocat ne défend pas le roman comme un roman. Il va gagner, il va obtenir en fait, il va réussir à innocenter Descaves en montrant que ce que dit Descaves est vrai. C'est-à-dire que Descaves s'est appuyé en fait sur des faits avérés, hein, et qu'on peut prouver dans des procès au sein de l'armée. Et donc du coup, c'est ça qui va faire remporter le procès à la défense. Donc sur la question de la forme, ça joue par exemple dans les débats aujourd'hui sur la question de la fiction, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce que la question de la fiction, on dit on distingue entre en fait représentation et apologie. La fiction a le droit de représenter le monde, c'était ce que revendiquaient Flaubert, Balzac, tous ces écrivains du 19e siècle, en disant c'est pas parce qu'on incarne dans la bouche d'un personnage, et d'ailleurs le procès Flaubert est intéressant parce que c'est l'introduction de la forme du discours indirect libre, hein, donc qui crée en fait une ambiguïté dans le texte, et il y a un débat sur le sens du texte dans le procès, puisque le procureur impérial, le tristement fameux Ernest Pinard, qui restera célèbre grâce à ça dans l'histoire, dont on a découvert dans son vieil âge, il écrivait des vers cochons, mais voilà. Donc il devait être assez fasciné par Flaubert, qui était d'ailleurs plutôt dans, comment dire, dans la litote, enfin dans le voilà, justement, c'était dans le non-dit que tout se jouait. Hein. On peut penser à la scène du fiacre. Mais en fait, ce qui se passe dans le procès, c'est que donc le procureur Pinard essaie de dire que Flaubert magnifie l'adultère. Et il prend par exemple comme exemple, un des passages qui sert à l'accusation, c'est le moment où elle revient de la rencontre avec son amant Emma rentre. De cette rencontre, et il est écrit, et elle se regarde dans le miroir, et il est écrit « Jamais elle n'avait été aussi belle ». Donc, pour le procureur, c'est une preuve que c'est la magnification de l'adultère. Et l'avocat a dit « Mais vous voyez pas, c'est elle qui se regarde dans la glace, c'est son point de vue, c'est elle qui se voit belle, en fait ». Et donc là, c'était un changement de focale. Bon, c'est pas ça qui a fait gagner... fait perdre à l'accusation, le procès. Ce qui a fait perdre, à mon avis, c'est que, en fait, le défenseur de Flaubert a dit que c'était un roman très moral parce qu'il montrait les effets des mauvaises lectures sur des jeunes femmes d'origine modeste à qui ces lectures ont donné des idées, et aussi des ambitions au-dessus de leurs conditions, et donc l'obsession de s'élever dans la hiérarchie sociale, ce qui a conduit évidemment à l'adultère et aussi à la ruine de la famille. Voilà.
Alors évidemment, quand on entend parler de ces procès, on ne peut pas faire autrement que de vous y avez fait allusion à propos du film, des films de Scorsese, de penser à la manière dont les questions de liberté d'expression, y compris vis-à-vis des religions, se posent aujourd'hui. Alors, Gisèle Saphirot, vous avez aussi observé les débats sur la liberté d'expression tels qu'ils sont posés autour notamment des intellectuels dits néo-réactionnaires comme Zemmour, Finkielkraut, Houellebecq, l'affaire Renaud Camus, Richard Millet. Comment est-ce que vous voyez les glissements entre le procès de Flaubert et aujourd'hui?
Oui, donc ces intellectuels néo-réactionnaires ou néo-conservateurs, tous ne sont pas... mais ceux dont on va parler, ce sont effectivement ceux qu'on qualifie habituellement de néo-réactionnaires, se réclament de la liberté d'expression et dénoncent en fait l'antiracisme comme une forme de censure. Alors, ils peuvent se référer à un dispositif légal de fait, parce qu'il y a la loi de 1972 qui punit et qui est une des restrictions qui est encore appliquée à la liberté d'expression, qui punit les incitations à la haine raciale, qui est en fait une reformulation de la loi Marchandeau de 1939 qui avait été promulguée contre la montée de l'antisémitisme dans ces années-là et qui a été évidemment abrogée par le régime de Vichy. Donc il y a un dispositif législatif de fait, mais aucun d'entre eux n'a jamais été ni poursuivi ni censuré pour quoi que ce soit, parce qu'ils prennent d'ailleurs bien soin de ne pas, par exemple, quand Richard Millet écrit un éloge littéraire d'Anders Breivik, qui est donc l'assassin, le meurtrier qui a tué 77 personnes et 150 blessés en Norvège, donc il écrit un éloge littéraire de cet assassin, il prend bien garde de dire, et il le publie 15 jours avant le procès, mais il prend bien garde de dire en fait, ce n'est pas une apologie, c'est il veut décrire la beauté du geste. Évidemment, il n'y a aucune description esthétique de la beauté du geste, finalement, il n'y a qu'une sorte d'apologie, enfin de défense et illustration de Anders Breivik. Mais après, il s'est plaint d'avoir été censuré. Alors, personne n'a jamais censuré ce livre. Ce livre est absolument... Vous pouvez l'acheter. Les libraires ne le mettent pas sur les tables, c'est vrai. Le principe de la liberté d'expression, c'est de dire qu'il vaut mieux autoriser le débat public que de censurer les textes. C'est que le bon sens, la vérité, la raison, les lumières vont triompher dans le débat et l'argumentation. Donc ce que eux ils remettent en cause, c'est le débat lui-même, oui. en le qualifiant de censure, parce qu'ils ne supportent pas la critique et l'attaque contre ce qui... Donc il y a une sorte de renversement, tout en se réclamant de la défense de la liberté d'expression. Voilà. Alors, du point de vue de cette question, il y a par exemple un débat sur la loi Guesso, qui n'est pas la loi de Guesso qui interdit les propos négationnistes en France. Alors, ce débat-là est beaucoup plus large. C'est pas du tout restreint aux beaucoup de gens qui défendent de la liberté d'expression pensent qu'effectivement, Vidal Naquet était le premier, de se dire qu'on combat mieux les arguments négationnistes, comme l'a fait Vidal Naquet, pas forcément en discutant avec eux, mais en contextualisant et en démontant l'argumentation, qu'en les interdisant et en les victimisant d'une certaine manière. Cela dit, moi je pense que c'est un peu différent pour la loi sur l'incitation à la haine raciale, que ça c'est... Bah, pour moi, ça serait, s'il y a une limite à trouver de la liberté d'expression, elle serait là, parce que, ça c'est mon point de vue personnel, stigmatiser des populations vulnérables, parce qu'en général c'est des minorités, c'est une manière de les exposer effectivement à l'opprobre, à la discrimination, voilà.
Est-ce que là vous faites allusion notamment aux critiques, aux caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo? Est-ce que là on touche la liberté d'expression par rapport à la citation à la haine raciale ou par rapport à la question de la liberté religieuse?
Alors c'est une question extrêmement complexe. Évidemment, la question c'est pas de, je pense, d'interdire, et c'est pas non plus de dire qu'il est bon parce qu'aujourd'hui là, beaucoup de médias s'auto-censurent par crainte en fait. Donc c'est certainement pas la bonne méthode, mais on peut quand même se poser la question de l'offense qui peut être faite à des groupes sociaux. Je pense que c'est très différent de considérer ça quand ce sont des groupes minoritaires dans des pays où il y a une séparation entre l'État et la religion, et des pays où on combat la religion parce qu'elle est, comme la période dont on parle, la Restauration, où elle est dominante et elle est instituée, et elle est défendue par l'État, protégée par l'État. Je pense que c'est pas du tout du même ordre, voilà.
Comment vous entendez, vous, aujourd'hui, les motifs avec lesquels on peut défendre la liberté intellectuelle? Comment est-elle menacée? Par quoi, exactement? Parce qu'on a reparlé largement cette menace.
Là, on a parlé des aspects législatifs, etc., réglementaires, mais il y a toute une série de facteurs qui bloquent la liberté d'expression aujourd'hui et qu'on ne voit pas. C'est effectivement le poids de certains intérêts économiques dans toute une série de médias. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont interdire de parler de telle ou telle chose, mais enfin, on sait très bien qu'il y a des politiques commerciales qui font qu'il faut avoir de la publicité, que cette publicité, bien sûr, vient d'un certain type de société, et que si ces sociétés, évidemment, étaient critiquées ou remises en cause dans les médias en question, il est assez peu probable que ces groupes continuent de donner de la publicité. Donc c'est pas évidemment aussi mécanique que quand on interdit un texte, mais c'est justement créer un certain mécanisme d'auto-censure en disant il ne faut pas faire de peine aux marchands d'armes parce qu'on est soutenu par un grand groupe d'armement, il ne faut pas faire peine à tel banquier parce qu'on est quand même financé en partie à perte par tel banquier, je ne cite personne, mais vous avez reconnu de qui je parle, etc. Donc il y a cette espèce de d'auto-censure implicite qui pèse sur beaucoup de médias aujourd'hui, parce que beaucoup de groupes de presse aujourd'hui sont en difficulté économique.
Du coup, la question des moyens de se défendre contre ce genre de censure.
Le seul périodique actuellement qui ne vit pas de la publicité, c'est Le Canard Enchaîné, c'est lui qui justement se permet de sortir des affaires qui gênent beaucoup de gens et qui parfois ont des effets politiques visibles. Bon, il y a eu d'autres tentatives d'autres médias pour faire la même chose, mais qui évidemment ne peuvent le faire que s'ils sont indépendants économiquement. Donc on voit bien qu'il y a aussi tout cet aspect de l'indépendance économique dans un monde médiatique où la concurrence est très forte, où il faut de plus en plus de moyens pour accéder à l'information, où certains types d'informations sont évidemment plus difficiles à obtenir que d'autres parce qu'elles sont aux mains de groupes de pression, etc. Donc tout ça montre bien que le combat, en tout cas pour nos pays, c'est plutôt celui-là qui est le plus fort, ce qui n'empêche pas qu'en même temps aujourd'hui même, en Turquie, on sait très bien que le pouvoir emploie des moyens pour museler l'opposition, qui sont tout à fait analogues à ceux qu'utilisait la Restauration ou le Second Empire en son temps pour empêcher les journalistes de parler ou de critiquer le régime. Donc on a les deux phénomènes, hein, mais c'est vrai que dans nos pays, c'est plutôt ce que j'ai décrit tout à l'heure qui est dominant, et encore dans une très grande partie du monde, hein, et dans des pays quand même pas si loin que ça, on est encore dans des processus d'interdiction ou d'empêchement de critiquer les régimes ou les religions qui sont tout à fait analogues à ce qu'on avait au XIXe siècle en France. Donc c'est pas du tout de l'archéologie qu'on fait là, on est encore tout à fait dans la vie aujourd'hui.
Et puis le dispositif en France de la loi de 1880 est toujours en vigueur, on poursuit, on voit comment on réactive au jour le jour, par exemple tout ce qui est qualifié d'apologie du terrorisme, qui dans un régime qui prétend défendre la liberté d'expression, en même temps censure de manière quand même assez significative, voilà, des propos qui peuvent être considérés comme justement relevant ce qui est qualifié comme une forme de propagande ou d'apologie. Ouais.
Alors, est-ce que la liberté de penser est toujours à défendre et comment? Parce que là, ce que vous décrivez, c'est aussi ce dont on a tous le sentiment, c'est-à-dire c'est une manière aussi plus diffuse tout de même de censurer, d'auto-censurer, de s'auto-censurer, de réduire les moyens. On peut parler aussi des moyens de la recherche, par exemple, qui sont aussi une manière d'atteinte à la liberté.
Oui, ou les formes de financement, puisqu'il y a de plus en plus maintenant de recherches, notamment dans les sciences de la nature, qui sont financées par des groupes de certaines branches qui ont des intérêts évidemment à développer certaines recherches, mais qui implique dans les contrats que les résultats ne seront pas diffusés ou ne seront diffusés que dans des cercles spécifiques, parce que après ça devient des intérêts économiques qu'il faut défendre. Donc là, ça veut dire que la liberté du savant n'est plus la même. Il peut faire ses recherches, on le paye pour ça, mais il y a une sorte de commanditaire privilégié qui se réserve l'exploitation ou qui se réserve la diffusion et qui ne le diffuse que si ça ne nuit pas à ses propres intérêts. Donc là, on voit bien qu'on est aussi dans un encadrement très strict de la liberté de la recherche. Il y a un autre phénomène qui a été beaucoup dénoncé aux États-Unis, c'est la monopolisation par quelques grands groupes de médias spécialisés des grandes revues scientifiques par lesquelles justement sont diffusés ces résultats et qui en réalité sont en position dominante, qui peuvent donc imposer des tarifs pour les abonnements aussi bien aux bibliothèques aux institutions, et qui, grâce à cela, évidemment, contrôle de fait la diffusion des résultats. Et si vous n'êtes pas dans ces revues-là, vous n'êtes pas visible, ou vous n'êtes pas considéré comme un bon savant ou un bon chercheur. Donc il y a une espèce d'évaluation par des intérêts externes à la recherche de la possibilité de faire connaître ces travaux, et ça pèse très lourdement, puisque ces grands groupes ponctionnent des ressources considérables sur les budgets des bibliothèques, sur les budgets des grands organismes, et souvent ces budgets, du coup, ne peuvent plus acheter d'autres types de ressources comme des livres ou des monographies. Et ça, ça a été dénoncé en particulier par Robert Darnton pour montrer la crise des ciseaux qui traversent les bibliothèques américaines, mais qui pèsent aussi sur les institutions françaises ou européennes, puisque ces revues internationales sont évidemment obligatoire si on veut rester dans la course internationale. Donc on voit bien que ça, c'est évidemment très loin de ce qu'on a vu pour le 19e siècle, mais ça a des effets de censure ou des effets de contrôle qui échappent très largement aux acteurs eux-mêmes et contre lesquels c'est très difficile de se mobiliser. Alors on crée maintenant des revues électroniques en dehors de ces circuits, etc. Mais comme il y a une espèce de hiérarchie des prestiges, il faut toujours mieux être dans telle revue que dans telle autre, donc il y a quand même un jugement implicite. On a vu le débat récemment autour de l'économie politique, hein, où vous savez, il y a un système de classement des revues en économie très très strict, et ceux qui ne publient pas dans telle et telle revue sont considérés comme des moins bons économistes. Enfin, il y a un effet de domination qui est très visible, et ceux qui veulent refuser ce système sont stigmatisés comme étant des mauvais joueurs, etc. Enfin, donc on voit bien que là, on est très loin des systèmes du 19e siècle, mais ça a des effets quand même tout à fait pervers du même ordre.
Oui, moi j'ajouterais l'introduction du New Public Management dans l'université. Enfin, ça touche tous les domaines de
qu'est-ce que c'est,
mais c'est les techniques en fait managériales qui sont, enfin qui servaient dans l'entreprise privée et qui sont introduites dans l'université, dans tous les secteurs de l'État, mais avec des effets désastreux qu'on connaît, enfin, toutes les politiques néolibérales et qui ont des effets assez catastrophiques sur la liberté de recherche, de fait.
Parce que toutes les activités doivent être évaluées avec des classements, etc. Et il y a des critères qui imposent qu'on doit privilégier telle activité ou telle autre activité, même si ça n'a pas vraiment d'efficacité.
Et puis, il faut dire qu'on passe de plus en plus notre temps à remplir des formulaires d'évaluation plutôt qu'à faire de la recherche. Ça, c'est aussi un des aspects de cette réduction. Mais juste sur ce que Christophe disait sur les contraintes imposées par les entreprises et les laboratoires pharmaceutiques dans les sciences de la nature, par exemple, sur la recherche, ça existe aussi en sciences sociales aux États-Unis, par exemple. Si on fait un sociologue veut enquêter sur une entreprise, son université va l'obliger à signer une clause, une sorte de convention avec l'entreprise qui fait que l'entreprise aura un droit de regard sur les publications. Et donc, si ce qui est publié ne lui convient pas, ne lui plaît pas, il pourrait empêcher la divulgation des résultats. Donc, fort heureusement, ça n'est pas encore, j'espère, ça n'est pas arrivé en France, mais quand même, ça pèse, ça risque. Enfin, il y a eu un débat à l'Association française de sociologie il y a quelques années, parce que les sociologues professionnels voulaient introduire des règles de déontologie, comme quoi il faut passer des contrats clairs avec les enquêtés, etc. Et donc là, il y a eu des résistants disant, mais du coup, il y a plein de terrains qu'on ne va plus pouvoir faire si c'est comme ça.
Est-ce que la question du principe de précaution, telle qu'elle a été présentée et sur laquelle, sur certains points, il a été statué, notamment aussi l'interdiction du clonage, est-ce que ça relève aussi
Alors ça, c'est les règles d'éthique, effectivement. Ça, c'est
des limites de la liberté.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut évoquer de manière générale, c'est qu'on peut avoir des principes démocratiques ou des principes éthiques qui entrent en conflit. Donc on peut avoir le principe de la liberté d'expression qui entre en conflit avec un principe d'éthique. Et donc là, ça va borner la liberté d'expression, la liberté de recherche. On a ça aussi avec, par exemple, la question de la protection de la vie privée. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de cas de procès en France autour notamment du genre de l'autofiction parce que en fait il y a à partir du moment où quelqu'un se reconnaît dans son, d'ailleurs l'autofiction comme genre, il existe aussi en partie à cause de ça, c'est-à-dire qu'on fictionnalise les personnages, on les fictionnalise même pas, on change leur nom pour qu'ils ne soient pas identifiables souvent c'est pour contourner les risques de procès et aussi en partie ça peut être aussi par respect par déontologie des écrivains, mais donc on est dans ce conflit. Alors on a des cas en général, par exemple sur ces cas-là c'est la protection de la vie privée qui va l'emporter le plus souvent. Il y a eu Christine Angot a été condamnée récemment, mais il y a des cas, il y a eu un cas qui crée un précédent, le procès de Camille Laurence où son ex-mari l'avait poursuivi en justice pour justement atteinte à la vie privée et en fait il a perdu son procès parce que le jugement dit que l'œuvre, par la fictionnalisation, il n'y a rien de fictionnel dans l'œuvre, mais alors c'est intéressant comment on utilise le terme de fiction, par la fictionnalisation, mais par le fait qu'il transcende le cas particulier pour l'ériger à un niveau universel. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une sorte de reconnaissance de l'autonomie de la littérature de ce point de vue-là, et c'est intéressant la manière dont le terme de fiction est utilisé, dévoyé en fait de son sens premier pour dire en fait la littérarité en fait. Voilà.
Alors ce qui est intéressant c'est de voir que quand même au centre de la question de la liberté intellectuelle, il y a tout de même le droit. Enfin, c'est d'ailleurs évidemment comme ça qu'elle est codifiée, et que là on sent qu'on est dans des grands pans d'atteinte à la liberté de penser qui ne peuvent pas être relevés d'une législation, c'est-à-dire on ne peut pas légiférer de quelle manière contre l'intervention des systèmes d'évaluation dans l'université ou dans la recherche. Et inversement, une,
une utilisation très très forte de la question de la protection de la vie privée, qui peut menacer aussi, d'un autre côté, d'une manière, la presse, l'image, le droit à l'image, la presse et la littérature. Et comment est-ce qu'on arrive à penser la question du droit dans tout ça ?
En fait, ça montre surtout que le droit lui-même évolue au fil des générations. C'est-à-dire que des choses qui auraient été impensables, même avant la guerre de 1939, aujourd'hui sont tout à fait acceptées. Et puis, aujourd'hui, on lutte sur des tabous qui continuent d'exister dans certains segments du droit ou dans certains segments de la société, et qui peut-être, dans 10 ans, seront considérés comme absurdes, ou inversement, peut-être qu'on ira dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on renforcera... Parce qu'il ne faut pas voir ça de façon continue. On voit toujours des mouvements de balancement. Gisèle parlait de la loi Marchandot, et puis quelques années après, il y a eu le régime de Vichy qui est revenu complètement en arrière. Et puis après, on a eu à la libération, évidemment, un nouvel élan en avant. Et puis sous les périodes comme la guerre d'Algérie, on a eu des nouvelles formes de censure beaucoup plus dures, puisqu'il y a eu pas mal de livres condamnés quand ils dénonçaient la torture. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire qu'on est toujours dans un débat et un combat qui n'est jamais terminé, bon, qui aujourd'hui en France est relativement stabilisé, mais enfin qui dans certains pays est encore extrêmement violent et tout à fait proche de ce qu'on avait comme lutte au XIXe siècle. Donc comme il y a quand même des effets directs de ces combats externes sur la vie interne en France, puisqu'on a des réfugiés, on a des gens persécutés qui essayent de continuer le combat en France, par exemple quand ils sont opposants à des régimes dictatoriaux, et qu'il y a des pressions diplomatiques qui peuvent s'exercer sur la France par rapport à des chantages sur des contrats d'armement, par exemple, on voit bien qu'on ne peut pas vivre comme si on était dans une bulle idéale de liberté, alors qu'à côté, il y a des régimes terribles qui continuent d'exister. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester, même dans des pays comme les nôtres, très très vigilant et tenir compte de ces interférences avec le monde extérieur.
Je dirais qu'il n'y a pas que le droit, parce que là, on a évoqué la censure économique, qui est effectivement un des phénomènes les plus importants, je pense, dans les démocraties libérales aujourd'hui, ou néolibérales, je ne sais pas comment il faut les appeler. Mais il y a aussi les interdictions du gouvernement, gouvernementales, elles existent. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup moins de procès que par le passé. Pourquoi ? Parce qu'on a très bien compris que faire un procès, c'était faire de la publicité au livre. Hein. Des caves, en fait, son livre, les ventes ont triplé. Ça a fait hurler de rire la salle pendant l'audience, parce que on a demandé à l'éditeur combien il avait vendu, et il a dit 7000 exemplaires avant l'annonce du procès, et puis 34000 depuis. Donc voilà. On a compris que ça faisait de la publicité. La stratégie de l'après-guerre, ça a été plutôt développer les interdictions administratives qui font qu'on ne parle pas du livre, il n'est juste pas disponible. Et donc le livre est mort et enterré avant même d'être sorti. Et c'est ça qui s'est multiplié, en fait. Les spécialistes de la censure ont beaucoup travaillé sur ça pour montrer que c'est ça qui, aujourd'hui, en fait, est le phénomène massif de censure exercé par le gouvernement. Ça existe aussi pour les spectacles. Évidemment, il y a eu l'affaire du pseudo-spectacle de Dieudonné, hein, qui a suscité un grand débat, parce que c'était aussi une manière de contourner l'instance judiciaire, hein, qui, s'il y avait eu un spectacle avec des propos qui s'étaient tenus, là, ça relevait du judiciaire. Mais à partir du moment où c'était une interdiction a priori, on ne pouvait plus discuter, même si on savait ce qui allait... présenté dans ce spectacle. Donc il y a eu un débat autour de ça, et qui est un vrai débat démocratique intéressant sur est-ce qu'il fallait ou pas interdire. Les juristes, par exemple, beaucoup de juristes sont... ils étaient divisés, mais il y en a eu beaucoup qui étaient contre cette interdiction.
Alors peut-être qu'on peut passer... On peut prendre encore quelques minutes pour prolonger cette discussion avec vous. Si vous voulez prendre la parole, vous avez vu qu'il n'y a pas de micro. Donc, parlez haut et clair et n'ayez crainte. Si vous avez des questions. Bon, bah, tout est clair. Bon, alors continuons.
Il y a peut-être une autre évolution, excusez-moi, si qu'il faudrait évoquer, c'est cette question de la privatisation, c'est-à-dire que en France, c'est l'État qui poursuit. Si on prend les États-Unis, c'est sur la base de plaintes privées qui sont portées par des ligues de moralité, des associations, etc. Et en France, on s'est rapproché de ce modèle à partir de déjà la loi de 39 qui donne aux ligues de moralité la possibilité de poursuivre en justice et depuis l'après-guerre, en fait, avec la loi de 1949 par exemple sur la protection de l'enfance, c'est-à-dire qu'on libéralise, mais en fait on peut tout interdire au nom de la protection de l'enfance. Il suffit qu'un livre soit sur un étalage de librairie pour qu'il puisse être considéré comme pouvant toucher les enfants. Donc il y a eu plusieurs affaires à ce propos. Mais donc cette privatisation, et je dirais peut-être la question dont on parlait tout à l'heure, la protection de la vie privée, elle témoigne aussi de ce... Parce que ça a toujours existé, hein, ce principe, mais elle témoigne aussi de cette forme de privatisation de la plainte. On voit beaucoup aussi par rapport à des expositions, au nom des organisations hein, de défense, de l'enfance, se porter plainte.
Peut-être, nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté sur le plan historique de le rôle qu'a tenu la presse dans cette question de la liberté intellectuelle dans ce début du 19e. Christophe Charles, vous avez étudié siècle de la presse. Est-ce que ça reste quand même le nœud de la
tout simplement parce qu'à l'époque c'est le seul média de masse. Hein. Mm-hmm. Il n'y en a pas d'autres à l'époque. Au XXe siècle, les choses vont changer, mais enfin, ce qu'on voit quand même dans notre livre plus globalement, c'est que jusqu'aux années 60, les médias alternatifs, que ce soit la radio ou la télévision, n'ont pas un poids tellement important parce que c'est encore des... Soit elles se spécialisent sur certains créneaux musicaux, etc. Et la part informative est assez limitée. Et la concurrence va vraiment se développer qu'à partir des années 60, quand vraiment la télévision devient le média de référence pour toutes sortes d'aspects de la vie, pas seulement la distraction, mais aussi l'information, etc. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a encore de nouveaux médias qui sont apparus avec Internet, etc. Donc, jusqu'aux années 60, on peut quand même dire que c'est la presse qui est vraiment le lieu de référence pour les débats, pour la liberté, etc. Et donc, tout ce qui permet à la presse d'être prospère ou pas prospère est évidemment un indicateur de son rayonnement et de sa capacité, justement, de jouer ce rôle de critique et démocratique. Or, ce qu'on voit, c'est que dans les périodes là, qu'on a citées tout à l'heure, surtout au premier 19e siècle, on a une presse extrêmement contrastée en termes d'opinion, mais en même temps, elle ne touche qu'un tout petit secteur de la population, puisque c'est une presse encore très chère, qu'on ne peut pas se procurer partout parce qu'il faut être abonné. C'est surtout les villes qui sont bien desservies, les campagnes sont très largement à l'écart. Donc on a une coupure très forte entre un espace public d'élite et une masse de population qui vit dans un autre espace-temps et qui n'a pas accès à la presse. Alors que ça va être complètement renversé à la fin du 19e siècle. On a vraiment après une presse de masse qui touche maintenant véritablement des classes sociales défavorisées, y compris à la campagne. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est à ce moment-là que la presse se dépolitise. C'est-à-dire pour qu'on puisse toucher tout le monde, on va atténuer les aspérités, on va réduire les décalages et on va s'orienter vers ce qu'on connaît aussi, ce qui a été un phénomène de la télévision, vers la distraction, vers le divertissement et une minoration de ce qui fâche ou une minoration des débats qui peuvent être clivants et qui peuvent du coup nuire à la diffusion. Quand on a la victoire de la presse, c'est le moment où en fait la presse joue beaucoup moins ce rôle de politisation et là le relais va être pris justement par la société civile à travers les partis, les syndicats, etc. Et où justement la presse de masse est beaucoup plus un instrument de divertissement et pas du tout de politisation. Donc Ces contrastes se retrouvent aujourd'hui avec la télévision, où les grandes chaînes de télévision, finalement, essayent d'utiliser leur temps de liberté de parole de plus en plus sur ce qui rassemble les auditeurs, puisqu'il s'agit de faire de l'audience et de limiter ce qui peut créer débat, d'où un certain déclin des débats politiques, une certaine transformation de l'information en information spectacle, et puis ce qu'on a vu ces temps-ci avec les campagnes électorales aux États-Unis, où ce qui compte c'est la personnalité des gens beaucoup plus que leurs idées ou ce qu'ils disent, et où on se bat sur des détails de vie privée, sur des expressions qu'ils ont pu avoir 30 ans avant, etc., et pas du tout sur le fond de ce qu'ils proposent, etc. Donc c'est les effets pervers un peu de ces médias qui fonctionnent à l'audimat et qui nuisent finalement à ce qui était leur fonction initiale, qui était de rassembler des débats vraiment sur des arguments et sur des oppositions tranchées, alors que là on est dans plus l'anecdote et le people.
Si je peux, oui, entre ce modèle de la presse grande, enfin, la presse littéraire et politique du 19e et puis ce modèle du divertissement, il y a eu quand même l'introduction du modèle de la presse d'information sur le mode tel qu'elle s'était développée aux États-Unis, avec l'idée de l'objectivité du journaliste et qui faisait que... Alors, continue d'exister une presse d'opinion, hein, mais le paradigme dominant en fait du journalisme est devenu cette question de l'investigation objective. Voilà, donc je pense qu'entre les deux, il y a eu aussi cette question. Alors évidemment, l'information aujourd'hui, comment se fabrique l'information et comment est-ce qu'elle devient divertissement, c'est un sujet que je ne sais pas très bien. Définie et qui pourrait nous occuper longtemps. Je voulais juste revenir sur la question de la presse dans la question de la liberté d'expression et des procès, parce que le support jouait aussi dans ces procès. Donc il y avait le contenu, mais il y avait aussi la forme, comme je disais, le genre, mais il y avait aussi le support. Donc publié dans la presse, par exemple, c'était plus grave que de publier un livre, parce qu'on savait bien que le livre allait toucher un public plus restreint. Mais il y a aussi un exemple intéressant de la publicité que les procès faisaient, et où on n'avait pas encore mesuré le pouvoir de la presse. Le procès de Béranger, qui est un des premiers procès, en fait, grand procès public après la promulgation de ces lois de 1819, donc la salle était pleine, les gens rentraient par la fenêtre, enfin bon. Et donc, dans ce procès-là, le livre des chansons de Béranger avait été imprimé à 10 000 exemplaires. Au moment de l'acte d'accusation, en fait, l'acte d'accusation a été diffusé. On n'avait pas le droit à l'époque de publier la défense, mais l'accusation a été diffusée dans la presse avec les chansons incriminées. Du coup, ils ont été publiés à 100 000 exemplaires, et donc il y avait une diffusion massive, massive relativement pour l'époque, et donc là, ils ont pris la mesure de ce qu'était cette diffusion par la presse. Mais de fait, la presse, effectivement, était toujours considérée comme pouvant toucher un public plus large. Il y a eu dans les années 40 un énorme débat autour du roman feuilleton, comme étant quelque chose qui allait créer les Madame Bovary de Flaubert n'a rien inventé, hein. il renvoie à un débat qui a eu lieu, hein, sur cette question du roman feuilleton comme risquant de pervertir surtout les femmes, hein, parce que c'était la question des nouveaux lecteurs, donc surtout les femmes, les jeunes, les ouvriers, les gens des milieux populaires, parce qu'on supposait toujours que les lecteurs cultivés, les hommes blancs, d'une certaine culture, etc., eux, ils avaient une capacité de prendre des distances, d'avoir une lecture distanciée, tandis que les classes populaires, et les femmes, évidemment, on supposait qu'ils allaient forcément s'identifier avec ce qu'ils lisaient. Et Madame Bovary, c'est exactement ce type de lectrice qui s'identifie, hein, quand soit elle lit de manière utilitaire, hein, soit pour meubler sa maison, soit Walter Scott, comment ça. Et puis, soit elle lit pour se donner des émotions, donc elle lit des espèces de romans d'horreur, elle hurle la nuit, voilà, donc elle cherche cette identification. D'ailleurs, elle fait plus la distinction entre fiction et réalité, on le voit dans la scène de l'opéra, où elle pense que le ténor s'adresse à elle, qu'il va l'emmener, etc.
Mais justement, est-ce que ça, ce thème de cette coupure, enfin, ou cette tension entre l'élite et le peuple, n'est pas quelque chose qui traverse toute la vie intellectuelle et qui même est un des vecteurs de cette histoire? C'est-à-dire que l'histoire de la vie intellectuelle, c'est l'histoire de la vie intellectuelle qui concerne de plus en plus de gens, de monde. Et c'est ça qui pose problème,
qui pose question. Est-ce que quand on transfère justement une culture d'élite à des catégories nouvelles, on peut la transférer telle quelle, ou est-ce qu'il faut l'adapter, etc. Donc c'est tout le débat sur la vulgarisation, sur qu'est-ce qui doit être transmis par l'enseignement, avec les séparations, puisque pendant toute une partie du 19e siècle, il y a quand même une coupure très forte entre l'enseignement pour le peuple et l'enseignement pour la bourgeoisie. Et puis au 20e siècle, inversement, le grand projet, c'est la démocratisation de l'enseignement. Mais est-ce que pour autant on va maintenir les mêmes programmes que ceux qu'on avait dans les lycées autrefois, ou est-ce qu'on va justement subdiviser en plusieurs sections avec des orientations en fonction de ce que les gens vont devenir par la suite? Donc tout ça, ça remet en cause, bien entendu, les contenus, les méthodes pédagogiques, les formes d'accès au savoir. Donc est-ce que c'est par le livre, est-ce que c'est par les leçons de choses, est-ce que c'est par l'apprentissage pratique, etc. Enfin, donc, cette vie intellectuelle, effectivement, passe son temps à débattre de tous ces enjeux qui sont les enjeux de la transformation de la société elle-même et de la façon dont cette vie intellectuelle doit s'adapter ou pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui refusent complètement, hein, ceux qui sont pour l'art, ils ne sont surtout pas faire de compromis, ceux qui veulent maintenir les anciennes humanités contre la modernisation de l'enseignement vers les sciences, etc. Enfin, tout ça, c'est l'enjeu de conflits, de débats permanents tout au long du 19e et du 20e siècle, et encore récemment, à chaque fois qu'il y a une réforme de l'enseignement, on revoit venir les mêmes arguments, même s'ils sont un peu modernisés ou adaptés au goût du jour. Enfin, on retrouve toujours des clivages entre ceux qui veulent préserver d'abord le contenu fondamental en fonction d'un héritage, et puis ceux qui disent oui, mais il faut que ce contenu parle aux gens qui sont de notre société d'aujourd'hui, donc il faut changer les formules, etc. Donc, effectivement, il y a des grandes constantes comme ça de longue durée, même si évidemment les débats semblent évoluer en termes. Mais il y a quand même derrière les grandes séparations sociales, les grandes traditions intellectuelles qui sont en désaccord sur ce que doit être l'enseignement. Est-ce que ça doit être d'abord une formation pour tous ou au contraire sélectionnée, etc. Donc, tout ça en France est vraiment très central dans tous les débats.
Oui, c'est d'autant plus central que c'est un pays très centralisé.
Voilà. Oui, c'est sûr qu'il y a des pays où il y a une beaucoup plus grande liberté des institutions scolaires, du coup il y a beaucoup plus de formes variées qui peuvent être en compétition.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a toujours cette idée des modes d'appropriation différenciés, c'est-à-dire que si sont des classes cultivées ou des intellectuels qui regardent la télévision, c'est forcément deuxième degré, alors que les classes populaires seraient forcément premier degré. Ça c'est un point, et on voit justement, ça c'est intéressant, c'est un des phénomènes qui a fait que la censure autour du livre s'est réduite, c'est la montée de l'image. C'est-à-dire que l'image a toujours été plus considérée comme plus dangereuse que le livre. À partir de 1945, quand ça se développe, les éditeurs arrivent à faire passer l'idée que lire un livre, même aussi mauvais soit-il, ça sera forcément mieux que regarder la télévision, parce que forcément ça requiert plus, sollicite plus de compétences intellectuelles. Et de fait, c'est le moment où Richard Rocard a écrit son livre sur, qui est traduit en français par c'est The Uses of Literacy, qui est traduit en français par La culture du pauvre, où il dit, mais attention, les classes populaires, quand ils lisent des romans feuilletons, ils ne lisent pas du tout dans l'identification. Il y a ce regard oblique, il y a le eux et nous, forcément ils savent très bien que on parle pas d'eux, voilà. Et on voit le débat aujourd'hui sur la manière dont on parle, par exemple, des jeunes sur Internet. Moi, je suis parfois étonnée. On reproche la culture du zapping et tout ça, mais enfin, je veux dire, les intellectuels sont les premiers à faire du zapping dans les livres, à lire par l'index. C'est comme si c'était forcément une forme de rapport hétérodoxe aux formes lettrées, alors que Internet c'est aussi le retour à l'écrit. Bon, alors, effectivement, parfois avec beaucoup de fautes d'orthographe et de syntaxe, mais enfin, c'est...
Oui, il y a quand même toujours quelque chose de dangereux à partager le savoir.
Pour certains.
Bah, c'est une forme de. C'est le principe de l'élitisme, c'est-à-dire si on partage, de toute façon, ça dévalue. Donc il faut bien considérer que c'est dangereux pour ne pas dévaluer. Par exemple, bon, ça c'est une question qui. Que j'ai pu discuter avec des éditeurs savants à l'étranger, où ils disent par exemple les professeurs ne veulent pas faire traduire les livres, parce qu'en fait, si les étudiants vont avoir accès directement aux livres dans, dans leur langue, ils n'auront plus ce privilège qui est de la connaissance de la langue étrangère, qui fait qu'eux, ils peuvent diffuser ce savoir, et plutôt que les étudiants aient un accès direct au texte.
Mais écoutez, mais je vous remercie. Je crois qu'on a déjà abordé, à moins que vous ayez des questions maintenant, non. Le débat sur la vie intellectuelle continue le jeudi 1er décembre. Là, nous avancerons dans le temps avec un autre éclairage qui sera plutôt celui de nationalisme et cosmopolitisme. Qui aura donc lieu jeudi 1er décembre ici à 18h. Le jeudi 2 février, nous parlerons de l'émergence des sciences humaines, l'unité brisée des savoirs sur l'homme, et là on commencera à arriver dans le 20e siècle. Le jeudi 2 mars, nous entrerons dans le temps des crises, où peut-être nous sommes toujours, en abordant plutôt un autre éclairage, qui est cette question, c'est les artistes sont-ils des intellectuels, qui a déjà été amorcée d'une certaine manière aujourd'hui, avec la question de la responsabilité de l'écrivain. Voilà, je vous remercie, et puis au mois prochain.